querer, tonto.
Vendredi, le métal fait son show sur Bac FM et après cette petite période de pause pour les fêtes de fin d'année, eh bien voici Check Milot qui fait son grand retour en cette année 2020. Donc pour une émission de rentrée avec une petite sélection tout à fait sympathique de que de disques qui paraissent aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est un bon jour que ce 10 janvier pour les sorties métal. Alors on a des grosses sorties, on a des groupes un peu moins on va dire populaire mais qui néanmoins propose de très bons albums. Et puis ben pour ce qui est du reste des grosses sorties, ça va s'étaler un petit peu là dans les semaines à venir. Ça commence à revenir un petit peu après cette période de fin d'année où il n'y avait plus grand chose, donc ça fait du bien d'avoir de la nouveauté à se mettre entre les oreilles. En tout cas, salut à tous, bienvenue dans ce premier Check Me Load de l'année 2020. Et pour commencer, eh bien je vous souhaite tous mes vœux à tous, que votre année soit des plus métal, et je vous souhaite donc le meilleur, hein, tout simplement, que vos rêves se réalisent, et on espère de très bonnes émissions de Check Me Load tout au long de cette année 2020, avec plein d'interviews. Ça va recommencer la semaine prochaine, les interviews, et puis bien sûr plein de nouveautés à vous présenter. Et la première nouveauté de cette année 2020, eh bien c'est un album qui était relativement attendu par les fans. C'est le nouvel album du groupe Apocalyptica, un album qui s'appelle Say Low et qui sort donc aujourd'hui. Alors, quel est donc ce groupe Apocalyptica ? Certains d'entre vous le connaissent forcément, hein, si vous suivez l'actu métal depuis quelques années, vous n'avez pas pu passer outre. C'est un groupe tout à fait singulier dans le paysage, je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, il faut savoir que c'est un groupe qui nous vient de Helsinki en Finlande, qui a été créé en 93. C'est une formation, alors pourquoi est-ce qu'elle est singulière ? Eh bien, parce qu'elle a été fondée tout simplement par 4 violoncellistes virtuoses, tous issus de l'académie Sibelius d'Helsinki. Alors ces 4 violoncellistes, c'est Eika Topinen, Paavo Lotionen, Max Lydia, qui a quitté le groupe en 2002, et Antero Manimen, qui a laissé sa place à Perttu Kivilakso en 99. Depuis 2003, le groupe compte également en ses rangs un batteur qui s'appelle Mikko Siren, et donc avec ses 3 violoncelles et sa batterie, on peut dire que le line-up d'Apocalyptica est loin d'être académique en matière de métal, où c'est généralement la triforce guitare-basse-batterie qui prédomine et qui fait légion. Alors en même temps, tout ça, ça n'empêche pas Apocalyptica de nous envoyer pleine face à un heavy metal symphonique tellement puissant et racé qu'on en oublie parfois l'absence de nos si chères guitares électriques. C'est tout d'abord en adaptant des titres de Metallica et d'autres ténors du métal qu'Apocalyptica, je vais y arriver, se fait remarquer. Ces revisites, on les retrouve sur ses premiers albums. Alors le tout premier, c'est Plays Metallica by Four Cellos en 96. Il y a eu ensuite Inquisition Symphony en 98. Et puis à partir de l'album suivant, Cult en 2000, eh bien le Quatuor va commencer à développer ses propres compos avec le soutien d'un batteur, donc que j'ai cité tout à l'heure, et puis surtout de différents invités au chant, ainsi Corey Taylor de Slipknot, Christina Scabbia de Lacuna Coil, Max Cavalera de Soulfly ou Joe Duplantier de Gojira, pour ne citer que ces quelques-là, vont apparaître en featuring au fil des albums suivants, des albums qui vont susciter un engouement considérable à travers le monde, comme en témoigne par exemple le gigantesque succès des albums Apocalyptica en 2005, Worlds Collide en 2007 ou encore Seventh Symphony en 2010. C'est donc fort de cette très solide réputation que le combo va sortir Shadowmaker en 2000... C'était en quelle année en 2015. 15, je dis, faut que je redise, celui-là je l'ai perdu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur cet album, le chant, il était confié en intégralité, et ça c'était une première à l'américain Frankie Perez, alors qui est connu pour ses collaborations avec Slash et avec Scars on Broadway. Et la prestation de Perez, elle était tout à fait convaincante, ce qui fait qu'on imagine tout à fait à l'époque que le chanteur va rejoindre le line-up du groupe de façon durable. Une hypothèse qui s'est avérée fausse, puisque Cello, qui sort aujourd'hui, c'est un album qui est en formule totalement instrumentale. Apocalyptica a choisi cette formule comme à ses débuts. Alors pourquoi ? Eh bien, il faut savoir que le combo a célébré par une très longue tournée mondiale les 20 ans de son album Plays Metallica by Four Cellos, donc de 96. Et du coup, il a eu envie, après cet exercice, de s'offrir une petite cure de jouvence et puis un retour aux sources en renouant avec les riffs, les atmosphères de ses premières productions, celles qui ont forgé sa réputation et son univers. Et à l'écoute du résultat de ce Cello, donc tout en instrumental, eh bien c'est indéniablement une excellente idée. Cello, c'est un album qui est extrêmement riche et varié, qui vogue entre puissance et sobriété. Il est doté d'une sublime production qui est signée par l'américain Andrew Sheps, dont le CV est plus qu'impressionnant. Et ben ce nouvel opus d'Apocalyptica est lui impressionnant de maîtrise. C'est beau, c'est onirique, il suffit de fermer les yeux presque hein, pour se laisser porté par les violoncelles. Cello, c'était un des albums les plus attendus de ce début 2020 et voilà, il tient vraiment toutes ses promesses. En voici tout de suite un extrait avec un titre qui s'appelle En route to Mayhem. Voici Apocalyptica avec un extrait de Cello. Apocalyptica sur Bac FM dans l'émission Check Me Load. De retour aujourd'hui en cette année 2020 avec plein de nouveautés et ce nouvel album donc Seilo de nos violoncellistes finlandais, album qui paraît aujourd'hui et qui vous propose un voyage onirique avec des moments calmes, des moments un peu plus énervés. En tout cas, c'est un album assez dépouillé mais très bien produit et ça fait du bien, voilà, d'entendre des bonnes choses. On a commencé un petit peu en douceur cette nouvelle année dans l'émission Check Me Load avec donc Apocalyptica. On va maintenant s'intéresser à un groupe français qui fait partie de mes chouchous depuis très longtemps. Un groupe qui est pas comme tous les autres. Hein. Là encore, on va être sur un groupe assez singulier dans son genre. Et aujourd'hui, ils nous sortent un nouveau disque. Alors vous allez voir, c'est un disque un petit peu particulier. Tout d'abord, laissez-moi vous confier que ce groupe, eh bien, c'est Misanthrope. Et le nom de sa nouvelle production, celle qui sort aujourd'hui, donc c'est Bâtisseur de cathédrale, les fissures de l'édifice. Bâtisseur de cathédrale, c'est un titre qui vous dit certainement quelque chose, hein, si vous suivez un petit peu la carrière du groupe depuis ses débuts. Des débuts qui ont eu lieu à Livry-Gargan en 1988. Le groupe, il est créé par son chanteur et leader, le charismatique SAS de l'Argilière, Philippe Courtois de son vrai nom. Et bien évidemment, le nom de Misanthrope, eh bien, il fait directement référence à l'œuvre de Molière. D'ailleurs, SAS de l'Argilière utilisera le prisme du personnage d'Alceste dans ses compositions afin de mieux refléter sa vision pessimiste et misanthropique du monde, mais surtout de la France et de ses contemporains. Et bien, ce qui fait de Misanthrope un groupe relativement à part, hein, dans le paysage de la scène métal hexagonale, une différence, une singularité qui se retrouve également dans le style musical du groupe, qui se situe entre death, black, doom, une esthétique que Misanthrope définit tout simplement comme étant du métal extrême. Alors, un métal extrême, certes avant-gardiste, grandiloquent et baroque, que les médias, eux, ont souvent qualifié de métal alambiqué. On peut également souligner que Misanthrope, c'est un groupe d'une étonnante stabilité, puisque son line-up n'a connu aucun changement depuis 2002. Le groupe se compose actuellement, donc outre son leader, SS de l'Argilière, de Jean-Jacques Moréac à la basse, qui est présent depuis le début et qui, selon moi, est vraiment un des meilleurs bassistes en France. On a également Gaël Ferré à la batterie et puis on a Anthony Chemama à la guitare et au clavier. Alors, en plus de 3 décennies, Misanthrope a réalisé 10 albums studio. Le premier, c'était Variation on Inductive Theories, c'était en 93, et aujourd'hui, c'est un album qui est très très difficile à trouver, donc si jamais vous en possédez un exemplaire, gardez-le précieusement. Sinon, parmi les chefs-d'œuvre notables du groupe, on peut citer 1666, Théâtre Bizarre en 95, qui est assez difficile à trouver aussi. Il y a eu Visionnaire, bien sûr, en 97, sur lequel, justement, on entend le morceau culte Bâtisseur de cathédrale, dont on va reparler d'ici quelques minutes. Et puis, sinon, pour parler de périodes un peu plus récentes, on a eu les 2 excellentissimes, donc d'abord Enigma Mystica en 2013, et puis ensuite Alpha X Omega, le magistère de l'abnégation en 2017. Alpha Omega qui marquait en quelque sorte les 30 ans de carrière de Misanthrope, qui en a profité pour sillonner les routes de France pendant de longs mois, avec notamment un arrêt au Hellfest en 2018, et une célébration qui se poursuit donc avec la parution aujourd'hui de ce bâtisseur de cathédrale, les fissures de l'édifice, un disque 6 titres qui est présenté par le groupe comme étant ni un EP, ni un album, ni un live, et qui regroupe en fait de nouveaux enregistrements studio qui vous transporteront au cours d'un périple fantastique dans un monde de misanthropie, d'histoire, de religion, de sexe et de culture française. Un disque qui débute les hostilités justement avec une nouvelle version du fameux morceau Bâtisseur de cathédrale, et puis un disque qui propose également quelques très belles reprise. Alors on y trouve une reprise du titre Le Fléau de Dieu d'ADX, une reprise de Sacrifice de Motorhead chantée en français, et puis une plus surprenante de Mylène Farmer, une chanson qui s'appelle Désenchantée, qu'on écoutera d'ailleurs en fin d'émission dans la rubrique Sortez Cover. Et comme Misanthrope aime les beaux objets, et bien cette nouvelle œuvre, elle est disponible en différentes éditions, dont certaines très limitées, des éditions qui sont en vente directement sur le site du groupe. Ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on écoute cette superbe nouvelle version de Bâtisseur de cathédrale, intitulée Bâtisseur de cathédrale 2020. Alors moi, ça c'est un morceau que j'ai toujours adoré dans le répertoire de Misanthrope. Et là, donc c'est un extrait de ce nouveau disque, Bâtisseur de cathédrale, les fissures de l'édifice, qui paraît aujourd'hui. On écoute Misanthrope. Misanthrope et son bâtisseur de cathédrale en version 2019 ou 2020, c'est au choix. En tout cas, c'est un sublime morceau que, enfin, une sublime remix. Je sais pas si c'est un réenregistrement, si c'est un remix, j'ai pas vraiment étudié la question. En tout cas, le résultat est très très bon et il est disponible sur ce disque bâtisseur de cathédrale, Les Fissures de l'édifice, qui est disponible donc depuis aujourd'hui et dont on reparlera en toute fin d'émission pour s'intéresser donc plus précisément à une des reprises qu'il contient. Misanthrope, qu'on avait eu la chance de voir en concert au début des années 2000, au tout début des années 2000, à Garchizy, figurez-vous. Et voilà, ils étaient passés, il y avait eu Watcha également qui avait joué sur ce même petit festival qui avait été organisé à l'époque. Et ça m'avait permis eh bien, d'avoir une interview avec SAS de l'Argilière de Misanthrope. Un moment que je n'oublierai jamais, qui est d'ailleurs SS de l'Argilière, qui est quelqu'un de tout à fait charmant. Et voilà pour ce nouveau disque de Misanthrope, groupe que j'adore, en tout cas depuis très longtemps. Que nous vient-il du côté de l'Allemagne ? Eh bien, aujourd'hui, nous avons un nouveau disque de Rage qui a débarqué dans les bacs. Un disque qui s'appelle Wings of Rage. Donc, Rage, un groupe qui nous vient de Herne, qui a été formé il y a bien longtemps, en 1984, par le chanteur, bassiste et leader Peter Wagner, dit Pivi. Le groupe va d'abord s'appeler Avenger avant de devenir Rage en 1986. Et il faut savoir que Pivi, c'est le seul membre d'origine encore présent. Depuis 2015, il est accompagné du guitariste argentin Marcos Rodriguez et du batteur Vassilios Magnotopoulos. Alors Rage, c'est du heavy metal mélodique, voire symphonique, avec tout de même une identité bien affirmée, ce qui les place un petit peu à part de la vague mélodique allemande engendrée par des groupes comme Halloween ou Gamma Ray. Ils vont sortir un premier album sous le nom d'Avenger en 85, c'est Prayers of Steel. Il y aura ensuite un premier album sous le nom de Rage, c'est Reign in Fear en 86. Et puis le combo allemand agrandira très régulièrement sa discographie au rythme d'un nouvel album tous les 1 ou 2 ans. Même si depuis les années 2010, Pivi et sa bande ont légèrement levé le pied avec parfois 3 ans entre 2 disques. Ça fait beaucoup pour eux. Ce qui fait que, eh bien, en 30 ans de carrière, ça nous donne un total de 24 albums studio, en comptant Wings of Rage, donc, qui paraît aujourd'hui. Et si le groupe commence à rencontrer un succès d'estime en Allemagne dès 88, avec la sortie de Perfect Man, c'est en 92 avec Trapped, que Rage va obtenir une reconnaissance internationale. Alors ensuite, il y aura l'album Lingua Mortis en 96, qui est un album sur lequel le groupe innove et va devenir le premier groupe de heavy metal allemand à enregistrer avec un orchestre symphonique, en l'occurrence l'orchestre philharmonique de Prague. On retrouvera ensuite ces éléments classiques très régulièrement dans les albums du combo, comme par exemple dans l'album 13 en 98, qui est certainement une des meilleures de leur production. Il me semble d'ailleurs que ça a été leur plus gros succès commercial. Donc vous l'avez compris, la discographie de Rage, elle est vaste, donc je me garderai bien de toutes vous la détailler. En tout cas, elle contient de très belles pièces, elle en contient d'autres plus dispensables, mais surtout, elle continue à croître avec ce 24e album qui, alors certes, ne révolutionnera pas l'univers musical de Rage, mais qui se pose comme un disque solide, énergique, entraînant. Désormais, la recette du cocktail sonore est parfaitement maîtrisée, c'est la même depuis 3 albums. Hein. Elle se compose de speed, de heavy, de power metal auquel on ajoute une bonne dose de mélodique sans oublier un soupçon de trash pour donner à l'ensemble une petite touche de noirceur. Alors une fois les ingrédients bien mélangés, bien mixés, on obtient ce Wings of Rage et ses nouvelles compos. 12 il y en a et elles sont assez variées, elles sont très bien produites et je pense que ça va ravir les fans du groupe. Mais ça va aussi ravir les amateurs de formation dans la lignée de Gravedigger, Iron Savior, Riot. On peut dire que 2020 sera certainement un bon cru pour Rage. On écoute tout de suite un extrait de Wings of Rage avec un titre qui s'appelle Let Them Rest in Peace. Rage sur Bike FM dans l'émission Check Me Load avec un extrait du nouvel album Wings of Rage qui paraît aujourd'hui. On vient d'écouter le morceau Let Them Rest in Peace, donc du groupe de heavy metal allemand, groupe présent sur la scène depuis 1984, 24 albums au compteur, et ça continue donc pour le groupe de Pivi Wagner. Voilà pour Rage. Et puisque on est bien en Allemagne, on va y rester et on va s'intéresser à un groupe un peu plus récent, même beaucoup plus récent, un groupe qui s'appelle Mystic Prophecy et qui sort également aujourd'hui un nouvel album intitulé Metal Division. Alors Mystic Prophecy, c'est un groupe qui nous vient de Bad Cronenbach, qui a été créé en 2001 par le chanteur R.D. Liapakis, qui est déjà connu à cette époque en tant que frontman du groupe de power progressif Valley's Eve, qui vous dit peut-être quelque chose. Alors pour son nouveau projet qui est Mystic Prophecy, Liapakis il s'entoure de Martin Albrecht, qui est alors le bassiste eh bien, de Valley's Eve, hein, tout groupe dont il fait également partie, du batteur suédois Dennis Ekdahl, et puis d'un certain Gus G à la guitare, tout jeune virtuose de la six cordes grecque, qui va devenir quelques années plus tard le guitariste d'Ozzy Osbourne, et qui désormais mène de front sa carrière solo et son rôle de frontman au sein du groupe Firewind, dont il est le créateur. Alors ce line-up des débuts de Mystic Prophecy, il a énormément évolué et puis vu passer pas mal de monde. Aujourd'hui, il se compose donc toujours de R.D. Liapakis, qui demeure le capitaine du navire. On y retrouve les guitaristes Marcus Paul et Evan Kay, une bassiste qui s'appelle Joey Rox et un batteur qui s'appelle Anno Kersten. Pour ce qui est du style du groupe, on est sur un power metal aux accents speed et thrash. Alors, un power metal qui est beaucoup plus inspiré de la scène américaine et de formations telles que Ice Doors par exemple, que de la scène allemande, pourtant fameuse en la matière. En un peu moins de 20 ans d'existence, Mystic Prophecy a sorti 11 albums studio. En comptant celui-ci, le premier c'était Vengeance qui est paru en 2001 et le dernier en date donc jusqu'à ce 10 janvier c'était Monuments Undercovered qui est paru en 2018 et dont la particularité était d'être un album constitué de reprises de chansons pop rock et metal des années 70, 80 et 90, un disque dont on reparlera d'ici peu dans l'émission. Mais venons-en à l'actu du combo et à ce nouvel album donc Metal Division qui est tout frais paru de ce vendredi. Alors c'est 11 compos mettent à l'honneur le heavy metal avec puissance, vaillance et efficacité. C'est servi par une production assez énorme. C'est un album qui brille par ses mélodies enlevées qui emportent l'auditeur en plein cœur de l'univers power des Allemands. Des Allemands qui nous montrent ici leur pugnacité et puis leur envie aussi d'offrir aux fans un travail de qualité aussi sincère que soigné. Ça commence plutôt bien cette année 2020 pour les fans de heavy. On écoute Mystic Prophecy avec le morceau titre donc Metal Division. Le vendredi, le métal fait son show sur Bike FM. C'était Metal Division de Mystic Prophecy, extrait de l'album du même nom qui s'appelle donc également Metal Division. Et vous êtes toujours bien sûr dans l'émission Check Meload, l'émission métal qui chaque vendredi vous propose un petit tour d'horizon de l'actu des sorties en matière de musique métal. Alors, du coup, là, on était en Allemagne avec Mystic Prophecy et son nouvel album. On va aller du côté de la Scandinavie. On va aller faire escale en Suède maintenant avec Brothers of Metal qui sort aujourd'hui encore. Il y a beaucoup de sorties aujourd'hui. Un nouvel album qui s'appelle Amblas Saga. Alors, Brothers of Metal, c'est un groupe qui nous vient de Birka. Birka, c'est une des plus anciennes villes de Suède qui a été créée en 2012 et qui a été créée selon la biographie du groupe par une nuit d'hiver extrêmement froide. Alors Brothers of Metal, c'est un groupe qui a pour particularité d'évoluer sous forme d'un octet, donc composé de 8 musiciens. On y trouve également effectivement 3 guitaristes, un bassiste, un batteur, une chanteuse et 2 chanteurs. C'est un groupe qui est porté vraiment par la mythologie guerrière du Grand Nord. Donc on pourrait qualifier leur style de heavy power pagan. On pourrait presque dire que leur son, il est à la croisée entre Rhapsody, Nightwish et Helluva-Vaci. Hein. C'est pour résumer la chose, hein. C'est vraiment pour donner une idée, parce que ça se résume quand même pas à ça. En tout cas, on y retrouve la brutalité viking, qui est adoucie par la douce voix de la chanteuse Ylva Eriksson. Et puis, on retrouve aussi cette brutalité viking qui est aérée, j'ai envie de dire, par les nombreuses envolées épiques qui donnent une dimension un peu légère à la musique des Suédois à certains moments. Voilà, ça donne de la respiration. Alors, bien qu'il existe depuis 2012, Brothers of Metal ne fera ses début discographique qu'en 2017 avec un premier album qui s'appelle Prophecy of Ragnarok, qui est paru chez AFM Records. C'est un album qui avait plutôt convaincu les amateurs de métal héroïque. Et puis donc en 2019, en attendant ce fameux deuxième album qui arrive aujourd'hui, la bande des 8 s'était offert un split CD de titres avec le groupe allemand Yudo, de monsieur Yudo Dirkschneider, illustre ex-chanteur d'Accept. Et puis ça y est, hein, le grand jour est arrivé. En ce 10 janvier, le retour tant attendu de la horde guerrière des frères du métal est enfin à portée d'épée avec ce nouveau joyau de pagan viking heavy power metal. Alors au programme de ces 13 nouvelles compos, des refrains à faire chanter les stades du monde entier, des mélodies inoubliables, des arrangements parfois symphoniques, parfois plus aériens, des vocaux féminins enchanteurs, du chant masculin rugueux, varié et saisissant, et surtout une authenticité incroyable de la part de nos Suédois dont la foi en leur musique semble indestructible. C'est de tout ça hein, qu'est fait Amblas Saga, de guerriers en fourrure et cuir, d'épées levées hautes à la gloire d'Odin, et puis dans sens du spectacle inné qui font de ce deuxième album un pur régal pour ceux qui aiment chevaucher les plaines l'âme à la main en chantant à tue-tête. Alors préparez-vous bande de barbares puisque voici Brothers of Metal avec le titre Njord.
Nothing left to lose. Where our long boats meet the shores with nothing.
Njord de Brothers of Metal sur Back FM 106.1, extrait du nouvel album Amblas Saga, paru aujourd'hui, en ce 10 janvier. Brothers of Metal, groupe composé de 8 musiciens qui nous vient de Suède et qui sort donc aujourd'hui son deuxième album. Donc pour ceux qui aiment le heavy metal à tendance héroïque, c'est parfait, c'est à ajouter dans vos playlists. On change de style, mais alors radicalement, on va aller s'intéresser à un groupe qui nous vient du Pays-Bas et qui sort aussi aujourd'hui un nouvel album, un groupe qui fait beaucoup parler de lui depuis quelques temps, qui s'appelle Die Wolf, et qui sort donc aujourd'hui un album intitulé Tascam Tapes. Alors Die Wolf, c'est un groupe, donc je l'ai dit, qui vient des Pays-Bas, de la ville de Gehlen plus précisément, qui existe depuis 2007, et qui a été créé par un tout jeune trio composé des frères Pablo, 13 ans à l'époque, et Luca Van. Donc Pablo et Luca Van Poel, qui avaient 13 et 15 ans à l'époque et qui sont respectivement chanteurs et guitaristes du groupe. Et puis il y a un troisième, bien sûr, puisque c'est un trio, et c'est un batteur qui s'appelle Robin Pissot. Et c'est pas un batteur d'ailleurs, je vous dis n'importe quoi, je la refais. Donc Die Wolf, c'est un trio qui est composé de deux frères, donc vous avez Pablo et Luca Van de Poel. À l'époque de la formation, Pablo a 13 ans, Luca a 15 ans, ils sont respectivement pour le premier chanteur-guitariste et pour le second batteur, et puis il y a un troisième larron, bien sûr, puisque c'est un trio, et ce troisième larron s'appelle Robin Pissot. Il a 17 ans au moment de la création du groupe et il est au clavier. Voilà, là vous l'avez fait proprement correctement. Alors Die Wolf, c'est du rock psychédélique aux accents hard rock, avec des touches quand même bluesy, southern rock. Leurs influences, elles ont pour nom Jimi Hendrix, The Doors, Led Zeppelin, pour vous en citer quelques-unes. C'est un groupe qui est plutôt prolixe, Die Wolf, puisque en seulement 13 ans d'existence, ils ont sorti un EP, 7 albums studio et 2 albums live. C'est un groupe qui a tourné un petit peu partout à travers la planète, qui bénéficie d'ailleurs d'une sacrée réputation scénique. Mais la scène, c'est pas son seul terrain de jeu favori, puisque le trio s'éclate également en studio, où il aime inventer, innover, bidouiller. Alors par exemple, pour son album Rougarou, qui est paru en 2016, les Néerlandais avaient choisi un enregistrement 100% analogique à l'ancienne, quoi. Donc le combo avait ensuite continué son ascension vers les cieux du rock avec le très réussi Thrust en 2018, et il est de retour aujourd'hui avec ce 7e opus intitulé tout simplement Tascam Tapes, alors qu'on pourrait traduire par les bandes sonores du Tascam. Tascam étant en fait une marque de matériel audio qui produit notamment des petits enregistreurs audio. Nous on en utilise par exemple à la radio ici à Bac FM, et si le groupe a choisi ce titre pour son album, eh bien c'est tout simplement qu'il a été intégralement écrit et enregistré sur la route durant la dernière, durant sa dernière tournée. D'ailleurs, D-Wolf nous vend ce nouvel album en nous déclarant qu'il a été enregistré pour moins de $50, mais qu'il sonne comme s'il en avait coûté 1 million. Alors sans aller jusque là, c'est vrai qu'il est très réussi, hein, ce Tascam Tapes, qui est plus compact, plus épuré que son prédécesseur. Et si dans le van de tournée, il y avait quand même assez peu d'espace, il y avait l'horizon en ligne de mire, et puis il y avait aussi 15 000 km d'inspiration, des milliards de particules qui flottaient dans l'air en attendant d'être transformées en chansons. Le groupe qui souhaitait faire quelque chose de complètement différent a donc dû s'adapter, hein, aux espaces restreints qui lui étaient offerts. Donc il y avait le fond du van, il y avait les minuscules petite loge des salles de concert, des endroits où en fait ils pouvaient utiliser que des petits objets portables comme un synthé de poche, un sampleur de batterie, un studio qui tenait essentiellement dans une valise. Et c'est sur un Tascam porte-à-tout que Tascam Tapes a été enregistré, c'est-à-dire un petit enregistreur cassette 4 pistes des années 80, et les seuls équipements qui ont été utilisés furent donc un sampleur avec des vieux samples de batterie soul et funk, un synthé à pile et une guitare, et le tout branché directement sur ce fameux petit 4 pistes. Alors le résultat avec si peu de matériel, il est assez étonnant et il y a de quoi rester assez perplexe. En voici la preuve en musique avec le titre Blood Meridian. Voici tout de suite D-Wolf sur Bac FM. We'll be right back. C'était Devolf sur Back FM 106.1 dans l'émission Check Me Load avec le titre Blood Meridian, un extrait du nouvel album Tascam Tapes qui paraît aujourd'hui. Donc le groupe du Pays-Bas qui a choisi d'enregistrer tout son album sur un petit Tascam des années 80 à 4 pistes. Fallait du courage et le résultat est plutôt surprenant. C'est vachement bien foutu en fait. Et voilà, ça fait quelques semaines que ce petit disque crée l'engouement. Je pense que ça a pas fini de faire couler de l'encre et de faire dire des paroles. En tout cas, je pense qu'on va les retrouver très prochainement sur les scènes du monde entier, nos amis de Devolf. On va maintenant, puisqu'il nous reste un petit peu de temps, s'intéresser à une ressortie d'album. Alors, un album que j'avais déjà présenté lors de sa première sortie, c'était en 2019, hein, en 2018, oh bah je sais plus, je suis perdu. En 2019, si je crois, à peu près un an, en tout cas il s'agit... Non, c'était fin 2018, voilà, ça y est, je vais y arriver. C'était fin 2018, ça y est, j'en suis sûr. En tout cas, le groupe, c'est Behemoth, et l'album, c'est I Love You At Your Darkness, qui sort donc aujourd'hui en édition spéciale. Alors, Behemoth, c'est un groupe polonais qui nous vient de Danzig, qui existe depuis 91. Il a été créé par le trio Nergal au chant à la guitare, Desecrator à la guitare et Ball Ravenslock à la batterie. De cette époque, désormais, il ne reste que Nergal, qui est de toute façon depuis toujours le leader incontesté de la formation. Alors Behemoth, c'est du black metal traditionnel à ses débuts, avec quand même un virage black and death, donc mélange entre black et death à partir de l'album Satanica paru en 99. Et sa discographie, elle se compose à l'heure actuelle de 10 albums, en studio, je parle, dont les deux avant-derniers. Les trois avant-derniers sont Evangelion en 2009, The Satanist en 2014, qui ont connu un très gros succès commercial en Europe et aux USA, et puis donc ce petit dernier, I Love You At Your Darkest, qui est paru, je suis quasiment sûr, en 2018, qui a été une année très importante pour le groupe, parce qu'il avait un petit peu plus tôt dans l'année produit un live qui s'appelait Messe Noire. Donc voilà, ça avait été une année très riche. Donc pour en revenir à I Love You At Your Darkness, on peut dire que c'est un véritable chef-d'œuvre du genre qui s'avère aussi complexe que blasphématoire, qui est peut-être le disque le plus noir de Nergal et sa bande jusqu'à aujourd'hui. C'est un album qui est à la fois varié, lourd et destructeur. C'est un disque qui contient tous les éléments qui ont fait le fameux son reconnaissable entre mille de Behemoth. Les compos, elles voguent quasiment sans cesse entre classe et agressivité, tout en étant parsemé de petites innovations, de variations qui tiennent l'auditeur en haleine du début à la fin. Et avec cet album, on peut dire que Behemoth avait effectué un retour éclatant de noirceur qui avait largement marqué cette fin 2018. Et l'impact fut tel que le voilà qui ressort aujourd'hui dans cette édition spéciale, qui est agrémentée de 4 titres bonus qui sont issus de la session live enregistrée par le groupe en octobre 2018 lors de son passage à la BBC. C'était dans l'émission Radio First Rock Show with Daniel P. Carter. Et puis il n'y a pas que ces 4 petites titres bonus qui viennent agrémenter cette réédition, il y a aussi un documentaire sur le groupe, et le tout est fourni avec une nouvelle illustration signée Nicolas Samori. Alors, il faut noter que les 4 titres live inédits qui sont disponibles sur cet album le sont avec la réédition, mais également indépendamment. Si vous les voulez juste ces morceaux-là, vous pouvez les prendre sur les plateformes de téléchargement numérique. Et ce que je vous propose, moi justement, c'est d'en écouter un extrait de cette session à la BBC avec le titre Wolfies of Siberia. C'est donc Behemoth tout de suite en live. Alors le son est un petit peu particulier, mais je rappelle que c'est enregistré à la radio BBC, donc dans des conditions un peu particulières.
Yeah.
C'était Behemoth à l'instant avec le titre en live, Wolfies of Siberia. C'est un extrait de la session donc enregistrée à la BBC dans l'émission Radio First Rock Show with Daniel P. Carter, et que l'on retrouve donc dans la réédition qui paraît aujourd'hui de l'album I Love You at Your Darkest, une édition donc spéciale de l'album sorti à l'origine en 2018. Voilà pour Behemoth et voilà pour cette petite sélection de sorties du 10 janvier. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va passer à la rubrique Sortez Cover pour conclure cette émission. Et donc au début de cette première édition 2020 de Check Me Load, je vous avais présenté la nouvelle production de Misanthrope, donc le 6 titres Bâtisseur de cathédrale, Les fissures de l'édifice, qui est paru aujourd'hui et qui contient donc plusieurs reprises très intéressantes, dont une chanson de Mylène Farmer, Désenchantée, que l'on retrouve ici dans une version aussi surprenante que réjouissante et que j'ai donc eu envie de mettre à l'honneur dans cette première rubrique Sortez Cover de 2020. Et si le choix de reprendre du Mylène Farmer vous paraît curieux, eh bien sachez que l'icône de la chanson française à l'univers souvent gothique et mélancolique fait partie des influences de SAS de l'Argilière, qui s'en cache d'ailleurs pas et même le revendique parfois dans ses interviews. Alors, la chanson Désenchantée que l'on retrouve dans ce bâtisseur de cathédrale, Les fissures de l'édifice, elle date du début des années 90, la version de Mylène Farmer, donc elle est parue le 18 mars 91 en tant que premier single extrait de l'album L'Autre, qui va arriver lui dans les bacs quelques semaines plus tard, le 9 avril 91, et qui va rester classé numéro 1 des ventes d'albums en France pendant 20 semaines, ce qui est gigantesque. Tout comme l'album, la chanson Désenchantée va connaître un succès commercial absolument énorme avec 1,3 million d'exemplaires vendus. C'est un morceau qui va rester numéro 1 du top 50 pendant 9 semaines. Et puis Désenchantée, c'est un succès qui va dépasser nos frontières puisque la chanson, elle va se classer numéro 1 en Belgique avec là aussi, je crois, un record assez impressionnant. Et puis aussi, elle s'affichera en bonne place au Québec, aux Pays-Bas ou encore en Autriche. Pour en revenir à la France, là, juste 30 secondes, il faut savoir que Désenchantée, ça va être la chanson la plus diffusée sur les radios en 1991. Et puis Désenchantée, c'est également un clip qui sera diffusé lui aussi en boucle sur les chaînes musicales M6 en tête. Un clip réalisé bien évidemment par Laurent Boutonnat, l'indissociable collaborateur de Mylène Farmer. C'est une vidéo qui est tournée à Budapest dans une usine désaffectée durant l'hiver 91. Alors c'est un clip très sombre aux couleurs froides qui évoque les camps de travail avec leur violence, leur saleté, leur inhumanité. Alors, vous vous en doutez, la version de la chanson enregistrée par Misanthrope, ça donne une toute nouvelle dimension à ce morceau Désenchanté. Il faut dire que le groupe est toujours, depuis toujours, extrêmement doué dans l'exercice de la reprise. Ils en ont fait pratiquement depuis leur début. Et là, en fait, Misanthrope se réapproprie tellement bien la chanson qu'on pourrait croire qu'il en est l'auteur. On retrouve notamment cette fameuse alternance entre complainte plaintive et chant puissant qui est si typique de SAS de l'Argilière. Vous allez l'entendre, le résultat est vraiment bluffant. Voici donc Désenchanté de Mylène Farmer, revu et corrigé par Misanthrope. Il s'agit d'un extrait du disque Bâtisseur de cathédrale, Les fissures de l'édifice, qui est paru aujourd'hui. Quant à nous, eh bien, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures métal. Salut à tous!